Inside Sustainability Interfaces est un podcast produit par la Société académique suisse pour la recherche environnementale et l'écologie, SAGUF. Nous proposons des analyses et des perspectives interdisciplinaires et transdisciplinaires sur la recherche en matière d'environnement et de développement durable. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de partager une contribution issue de Sustainability Talks at UNIFR, un podcast réalisé par des étudiantes et étudiants de l'Université de Fribourg dans le cadre de la micro-certification Sustainability in Practice. La SAGUF a soutenu ce projet étudiant et relaie volontiers certaines de ses productions, qui ouvrent des perspectives jeunes, critiques et engagées sur les enjeux de durabilité. Aujourd'hui, il est question d'agriculture durable. L'épisode propose aussi des pistes concrètes pour celles et ceux qui souhaitent agir dès aujourd'hui. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce podcast produit dans le cadre de la micro-certification en durabilité proposée par l'Université de Fribourg. Je m'appelle Roxane et j'étudie dans la faculté de droit. Je ne suis donc pas experte dans le domaine présenté aujourd'hui, mais je serai assistée par Nina qui m'aidera dans cette discussion. Salut Nina, tu peux te présenter ?
Hello! Alors, comme Roxane vient de dire, je m'appelle Nina, je suis étudiante en biologie, du coup je m'y connais un petit peu plus dans ce domaine, mais on va quand même beaucoup explorer.
Bah, je me réjouis de faire cette discussion avec toi. Avant de commencer, le jingle. Aujourd'hui, notre discussion va se porter sur notre système d'agriculture actuel. C'est un sujet très large qu'on va tenter de survoler en faisant des zooms sur les points cruciaux. Nina et moi, on souhaitait soulever les problèmes très sérieux qui englobent la production au niveau de la durabilité et de l'environnement. L'agriculture est à l'origine de l'émission de superpolluants tels que le méthane, le carbone, l'ozone et bien d'autres encore. Pour vous donner un chiffre un petit peu plus parlant, sur les 40% d'émissions de méthane d'origine humaine, 32% sont directement dues à l'élevage. Donc en gros, tous ces gaz superpolluants posent des problèmes non seulement pour la santé des humains, qui peuvent causer des maladies cardiovasculaires, des cancers, des problèmes respiratoires. Mais ils dégradent la qualité de l'air, de l'eau, des sols. Ils polluent les chaînes alimentaires et nuisent à la biodiversité. Donc malheureusement, l'impact de l'agriculture intensive ne s'arrête pas au gaz. Nous devons aussi nous questionner sur l'appauvrissement de nos sols, ces sols qui sont la base de notre alimentation, et sur la perte dramatique de biodiversité que ces pratiques engendrent. Il est donc crucial de se pencher sur les solutions concrètes que nous pourrions apporter. Il existe des alternatives d'agriculture qui sont plus écologiques, plus biologiques. Il y en a plusieurs différents types. Des modèles donc qui cherchent à combiner la réduction des émissions de gaz tout en améliorant les rendements sur le long terme. Ces alternatives plus durables s'opposent clairement à l'agriculture intensive. Comme on n'est pas experte avec Nina, on a décidé de faire intervenir la docteure Laure Weisskopf pour venir discuter avec nous. Bonjour, vous êtes professeure à l'Université de Fribourg dans le département de biologie. Est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter ?
Bonjour mesdames, bonjour à tous et à tous qui nous écoutez sur ce podcast. Donc oui, je travaille depuis 2017 au département de biologie en tant que professeure d'interaction plantes-micro-organismes. J'ai travaillé notamment 3 ans à l'Agroscope. C'est une institution de l'État pour la recherche appliquée. Et puis, donc, la recherche pour l'agronomie. Et j'ai aussi travaillé 1 année et demie dans une école de viticulture, aussi assez appliquée. Donc, j'ai un peu cet aspect-là, sans être agronome. Je ne suis pas une spécialiste des questions d'agriculture et de durabilité, mais j'ai une affinité avec ce monde-là aussi, parce que nos recherches s'intéressent à essayer de rendre l'agriculture plus durable.
Super, merci beaucoup pour cette présentation. Alors pour commencer, je vais vous poser une petite question. Si je vous parle de l'agriculture conventionnelle ou intensive, quels sont les problèmes principaux qui vous viennent à l'esprit ?
Avant de répondre, peut-être une précision, parce que vous avez parlé dans l'introduction de l'agriculture intensive. Donc, moi, quand on parle d'agriculture intensive, je vois les grands champs aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc il faut savoir qu'en Suisse, sans vouloir nous vanter, parce qu'il y a plein de problèmes en Suisse aussi, on n'a pas ce genre d'agriculture intensive. Donc, on a une agriculture, la plupart des producteurs, ils travaillent dans ce qu'on appelle une agriculture plutôt extensive, sans être forcément bio. On pourra peut-être parler des différences des exploitations, mais on n'a pas ces étendues massives de monoculture avec à perte de vue du bétail qui émet justement le méthane dont vous parliez en introduction. Donc voilà, juste pour préciser que la situation n'est pas si dramatique dans notre pays, mais elle est dramatique dans d'autres parties de la planète. Donc ce qui me vient à l'esprit, c'est la perte de biodiversité, c'est la dégradation des sols, c'est le fait qu'on a un système global où on produit plus vraiment localement ce qu'on consomme localement, mais on produit à grande échelle une chose, puis après on l'exporte, on l'importe. Ça génère aussi de la pollution avec les transports aériens ou en bateau. Donc c'est ça qui me vient, c'est cette espèce de gigantisme qui est plutôt vrai dans d'autres parties du monde, mais contre lequel on doit aussi se battre chez nous aussi, d'avoir perdu le côté très ancré dans les communautés.
Super, ben, merci beaucoup pour ces précisions. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que ça serait mieux d'avoir une production qui est plutôt locale ou plutôt intégrée justement dans les communautés. Est-ce que vous pensez que c'est des solutions qui sont applicables bah, à la grande échelle ou dans le monde actuel, par exemple dans les pays où il y a l'agriculture intensive ou même en Suisse?
Forcément, oui, je le pense. Sinon, il n'y a plus d'espoir. Je pense qu'on peut changer beaucoup de choses. C'est aussi une thématique qu'on a souvent. Il y a deux attitudes face au problème. Soit on se dit, bon, de toute façon, je ne peux rien y changer parce que ce système est corrompu ou est faux. Ou alors on se dit, on peut changer les choses soi-même. Si vous vous rappelez de la crise du Covid, c'était intéressant parce que là, les gens, tout d'un coup, on ne pouvait plus avoir certains produits. On a été comme forcés de revenir à quelque chose d'un petit peu plus local. Les gens ont refait un peu leur pain. Ils sont allés au magasin de la ferme du coin. Mm-hmm. Et puis après, quand il n'y avait plus le Covid, ils sont retournés dans la... Donc voilà.
Alors,
on a compris aussi, mais je crois que c'était un signe qu'en fait, on peut changer. Il faut une volonté. Et je crois qu'il ne faut pas attendre que la politique change, que ça vienne d'en haut. Mais si chacun, on fait des efforts à la rigueur pour changer sa propre philosophie, son propre mode de consommation, on peut changer beaucoup de choses.
Mm-hmm.
Donc, j'en suis convaincue.
Donc, les pratiques individuelles, ça peut vraiment avoir un grand impact.
Je pense que c'est un impact sous-estimé. Déjà, le consommateur, il a un pouvoir énorme en achetant pas. Donc, c'est vrai que si on se laisse tenter par les fraises en hiver ou autre, on a une responsabilité, c'est sûr. Si on choisit d'aller acheter localement dans le magasin de la ferme ou autre, on a aussi un impact. Je crois qu'on a un impact qui va au-delà de ce qu'on pourrait chiffrer, de simplement, moi, petite consommatrice, je fais mes courses ici, ça a zéro impact sur la planète. Ça, on peut dire ça, mais il y a un impact beaucoup plus important psychologique et sociétal de quand on fait un changement soi-même, ça influence les gens qui sont autour de nous. Parce qu'on en parle ou simplement parce qu'on a fait ce choix. Il y a une force, pas de faire des théories, si je vous enseignais qu'il faut faire ci ou faire ça, ça a peu de valeur si je le fais pas vraiment. Mais si je le fais, ça a une certaine valeur de démonstration que c'est possible et d'ancrage d'une autre manière. Donc ça, moi, j'y crois assez.
Donc l'action...
L'action individuelle est très importante.
C'est ça, en fait. Elle aurait plus d'impact qu'une théorie qu'on donnerait au public. C'est donner l'exemple, en fait.
Oui, c'est donner l'exemple et puis pour soi aussi le faire. Parce qu'on est beaucoup dans les théories, dans ce qu'on pourrait faire, ce qu'on devrait faire, mais c'est pas possible parce que la politique, parce que les consommateurs, parce que ci, parce que ça... Et puis après, on attend toujours que l'autre fasse le premier pas, finalement.
Mmh.
Mais si chacun le faisait, on aurait un grand effet.
Et si on voit plus de personnes dans notre entourage qui le font,
ça aide, ça motive et ça fait boule de neige.
Mmh. Ouais. Est-ce que vous, quand vous allez faire les courses, vous faites attention aussi à ce que vous achetez et qu'est-ce que vous regardez principalement, si c'est bio, si c'est local?
Je regarde les deux. Donc, j'ai eu une phase un peu extrémiste où je n'achetais plus que les légumes du magasin de la ferme. J'en suis revenue, mais je privilégie encore ça. Donc, c'était intéressant pour moi aussi simplement. Moi, j'ai pas grandi dans une famille d'agriculteurs. J'étais dans une petite ville. J'étais pas au milieu des champs. Donc, j'ai dû comme apprendre ce qui pousse à quelle saison. Ce n'était pas évident pour moi parce que d'aller faire les courses dans les grands magasins, on peut pas s'en rendre compte. J'ai eu cette phase où j'allais au Hofladen, qui est en Suisse allemande, donc ça s'appelait le Hofladen et pas le magasin de la ferme. Et là, j'ai vu vraiment Qu'est-ce qui est produit à quelle saison? Puis l'immense période de carottes, pommes de terre, poireaux, et puis la petite période de tomates, de poivrons. Et c'était très utile. Et je continue à faire ça. Vous me verrez à la Coop, à la Migros, de temps en temps. C'est pratique d'acheter tout ensemble, mais j'essaie de privilégier plutôt le local. Si j'ai le choix entre bio d'Espagne et pas bio de Suisse, je prendrai le pas bio de Suisse plutôt, parce que on a quand même des normes en Suisse qui font que ce qui n'est pas bio n'est pas si pollué que ça. Et puis on a des normes aussi plus strictes, faut dire, que d'autres pays. Donc le bio des autres pays ne vaut pas le bio de Suisse, ça faut aussi le savoir. Et puis après il y a tous les trajets, le fait qu'on voilà, on achète des produits qui sont des travailleurs dans les autres pays sont moins payés. Donc il y a tout ce côté-là aussi de durabilité sociale qu'il faut prendre en compte, à mon avis.
Mmh. Ouais.
Même si bon, le vin de Suisse serait peut-être un peu moins fruité que le vin d'Espagne. Donc, je pense qu'il faut pas être dogmatique, ni dans un sens ni dans l'autre.
Ouais.
Avoir des principes rigides où on se permet plus jamais de faire une exception, c'est ni satisfaisant pour soi, et c'est pas non plus, quand on parlait avant de l'effet boule de neige, ça fait l'effet inertie. Mmh. On peut devenir un peu le prédicateur.
Tout à fait.
Ça fait fuir les gens. Ça n'a pas un impact où on a envie de faire comme vous, parce que vous irradiez un truc strict et dogmatique.
Mmh. Ouais, rester ouvert, ça permet de montrer que tout le monde peut le faire. Voilà. Que c'est...
Et puis que c'est à chacun, finalement, de décider.
Mmh. Ouais.
Et que déjà, si on commence à acheter un peu plus de bio, un peu plus de local, un peu plus de saison,
ça fait déjà
une différence. Déjà, si au lieu que 20%, par exemple, des fruits et légumes qu'on achète, on fait attention dans ces 20%, hein, si ça vient d'ici ou pas, si ça augmente peut-être à 50% ou même plus au-delà, idéalement, c'est déjà un impact, quoi.
C'est sûr. Je pense que chaque petite chose a un impact. Encore une fois, pas chiffré globalement, mais un impact fort.
Oui.
Au niveau du changement de société que ça peut induire dans l'entourage des gens.
Mm.
Pour changer un peu de sujet, vous avez parlé de la perte de la biodiversité, de la dégradation des sols.
Oui.
À quel point est-ce que la santé des sols, ou les sols en général, est un facteur important à prendre en compte dans l'agriculture?
C'est la base. Donc, on peut pas dire à quel point c'est important, tellement c'est important. Donc, si les sols fonctionnent plus, il y a plus de plantes qui poussent, et puis il y a plus de nourriture.
Mmh.
Donc, je pense que c'est un élément très important et très, très négligé pour différentes raisons. C'est difficile à étudier. Moi, j'ai étudié à Neuchâtel, je ne l'ai pas dit en présentation, mais c'était une des rares universités où on avait beaucoup de sol, beaucoup de sciences du sol. Après, le professeur, à l'époque, est parti en retraite. On l'a remplacé par quelqu'un qui fait d'autres choses très, très bien, mais qui travaille plus vraiment sur le sol. Et puis en Suisse, il y a très peu de chaires, de professeurs qui étudient ça. Donc c'est un domaine qui est sous-étudié. Et pourtant, c'est hyper important, et c'est très menacé par plein d'aspects. Vous avez parlé des gaz, hein, toxiques, c'est important. Il y a aussi tous les pesticides qui sont pas des gaz, mais qui s'accumulent dans les sols. Il y a l'érosion, il y a la compaction. Le fait, par exemple, que soit on laboure pour ne pas utiliser d'herbicides, mais alors on laboure et puis on risque d'altérer aussi la structure des sols. Ça, on décide qu'on veut pas labourer pour laisser le sol entier avec toutes ses couches, ne pas les perturber à chaque fois, ne pas tuer des vers de terre, ne pas couper des champignons. Champignons, en fait, on voit toujours le champignon, mais c'est un réseau de filaments dans le sol. Puis quand on laboure, on coupe les ifs, les cellules de champignons, donc on les détruit.
Mmh.
Et donc les gens, que tu veux pas faire ça, ils mettent des herbicides qui sont après toxiques aussi. Donc c'est pas blanc et noir, mais je pense que le sol est très important, et que restaurer les sols ou essayer de moins les dégrader, le sol se reconstruit, mais à une échelle qui n'est pas utile pour nous.
Mm-hmm. Ça fait penser un peu, parce qu'il y a soit l'agriculture diversifiée, donc qui essaie de diversifier ses plantes.
Mm-hmm.
Ça peut aider, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'agriculture de la conservation des sols, ou aussi l'agriculture régénératrice,
oui,
qui sont peut-être deux types d'agriculture qui se concentrent un petit peu plus, effectivement, sur le respect des sols, et presque même sur non seulement le respect, mais le fait d'essayer de revenir en arrière, en fait, de les soigner presque.
Oui, tout à fait. Il y a des cultures qui sont plus ménageantes pour les sols. Vous pouvez aussi planter des légumineuses, comme faisaient les gens à l'époque des jachères, où ils laissaient des sols libres. D'une part, les plantes ne puisaient pas les nutriments, donc ils se régénéraient. Puis d'autre part, il y avait des plantes qui amenaient de l'azote. Donc ça, c'est sûr qu'on peut, on peut travailler là-dessus. Et les gens le font, les agriculteurs le font. Ils en sont bien conscients. C'est leur potentiel. Pour un agriculteur, si son sol est dégradé, c'est fini pour lui. Donc, des fois, on a aussi, on n'en a pas parlé, mais on a des fois des représentations de l'agriculteur pollueur. C'est en partie vrai, mais on peut pas le dissocier du consommateur. Et il faut bien qu'ils cultivent leur terre. Ils l'ont reçue déjà pas dans un très bon état. Ils la transmettent idéalement dans un meilleur état, mais c'est pas évident.
J'ai aussi entendu que les sols, ils prennent très longtemps à se régénérer. Oui. Donc même, est-ce que même avec toutes ces pratiques de planter des légumineuses, par exemple, ou de l'agriculture régénératrice, est-ce que c'est possible de régénérer complètement les sols? Ou jusqu'à un
certain point? Ça dépend à quelle échelle vous parlez. Je pense pas qu'on arrive à les régénérer à une échelle utile pour l'humanité. Ça, je crois pas. Mais on arrive à freiner la dégradation et puis à revenir un petit peu en arrière. Ça, je pense que c'est possible. Et puis si on commençait déjà maintenant à arrêter la dégradation, on aurait déjà beaucoup gagné. Donc c'est pas ce qu'on fait maintenant. Il y a des initiatives, mais on continue quand même de surexploiter les sols et de ne pas en tenir assez compte. Après, on peut pas tout résoudre au niveau de la production. Il y a beaucoup qui est perdu aussi après, soit que ce soit par des maladies après coup dans les cultures, soit que les gens jettent à la maison. Parce qu'ils n'ont pas compris que si l'aliment il a dépassé la date, ça ne veut pas dire qu'il est plus consommable. Donc, il y a des tas d'aspects sur lesquels on pourrait travailler pour ménager les sols de façon extrêmement directe, c'est-à-dire en produisant moins parce qu'on aurait moins de déchets.
Donc, c'est intéressant.
On doit vraiment avoir cette approche systémique. C'est ce qu'on essaie de faire aussi au Food Center, au nouveau centre de recherche. On essaie d'intégrer justement des gens du droit, du marketing, de la psychologie, l'aspect consommateur-producteur. On a besoin de ça. Parce que je me rappelle l'exemple d'une variété. Je travaille sur les pommes de terre. La variété de pommes de terre qui était résistante au milieu, qui est la pire maladie pour les pommes de terre. Elle était naturellement résistante. C'était pas une plante transgénique. Et les gens n'ont quand même pas voulu parce qu'elle n'avait pas la forme, la couleur. Donc, on est aussi dans une société totalement pourrigatée. On a tellement...
Très déconnecté de la nature.
Très déconnecté de la nature. Et puis, tant que vous allez dans un supermarché et que vous avez le choix de 5 ou 6 variétés, pourquoi vous allez prendre celle qui a l'air un petit peu bizarre? Vous allez prendre celle que vous connaissez. Vous savez que vous allez pouvoir faire un bon stock ou un bon une salade parce qu'elle va se comporter comme vous voulez. Puis en fait, on donne des fois aussi trop de choix aux gens. Si on disait, maintenant, c'est cette variété qu'on peut cultiver, ce serait différent.
Mm-hmm. Et ça permettrait de réduire les dégâts en mettant des pesticides ou des fongicides.
Ça réduirait, en fait, je pense qu'on ne peut pas. Il y a beaucoup de théories qui disent que la population augmente, on doit produire toujours plus. Oui, mais si on regarde des déchets, si on regarde aussi... le budget du consommateur lambda, qui en fait, au fil des années, a dépensé de moins en moins pour la nourriture. Donc, on considère que la nourriture, c'est comme un dû, on doit l'avoir. Puis après, on peut partir en vacances, on peut faire ceci, faire cela. Mais en fait, on pourrait produire moins, payer un juste prix pour que les gens puissent aussi en vivre. Et puis, on résoudrait beaucoup de problèmes comme ça, indépendamment des innovations qu'on peut faire aussi en science.
Donc, ce qui serait un peu la solution idéale, ce serait de changer tout le système autour de la nourriture et de comment c'est produit, la consommation et tout.
Alors que je viens de vous dire qu'on commence chacun par soi.
Oui.
Il y a les deux aspects, en fait. Mais c'est vrai, c'est bien d'avoir cette compréhension du système qu'on peut pas juste changer une petite partie. On va en fait redéfinir. Et moi, j'ai assez d'espoir que ça se fasse. Peut-être pas tout de suite maintenant, tant qu'on n'a pas de problème. On a bien vu, il faut souvent qu'on ait des problèmes.
C'est ça. Après, on change les humains. Malheureusement, c'est comme ça. Hein.
Donc, on n'est pas à l'abri d'un nouvel élément, je ne sais pas de quoi il sera fait, qui va nous inciter à redéfinir nos manières. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer et s'améliorer. Parce que si on continue comme on fait maintenant, on va droit dans le mur, quoi.
La culture d'OGM, c'est actuellement un grand sujet de débat. Et elle est actuellement interdite en Suisse pour la consommation humaine. Qu'est-ce que vous en pensez des OGM et de la culture d'OGM?
Une bonne question. Je vais vous donner un avis totalement opposé à la plupart de mes collègues qui sont des fervents protagoniste des OGM. Moi, je suis pas du tout pour les OGM. J'ai pas l'impression que c'est ça qu'on doit faire. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une raison un peu philosophique où j'ai l'impression qu'on a, en tant qu'être humain, on a toujours l'impression qu'on veut changer et manipuler et modifier la nature. Ça, c'est une optique qu'on peut avoir. On peut aussi essayer de s'adapter, de voir comment la nature, elle procède. Donc, nous, on fait des recherches sur les communautés microbiennes associées aux plantes. Donc, on a une approche très différente. On essaie de regarder ce qu'il y a dans la nature, comment on pourrait l'appliquer. Après, des gens qui font des manipulations génétiques, ils peuvent dire qu'ils font la même chose parce qu'ils regardent dans quelle espèce de plante, par exemple, il y aura un gène de résistance à un pathogène. Puis après, ils l'intègrent. Mais c'est penser qu'on a tout compris, qu'on a compris exactement à quoi sert ce gène, pourquoi il est sous cette forme dans la plante qu'on veut changer. Et moi, je crois qu'on n'est pas encore à ce stade où on comprend vraiment assez bien pour modifier de façon durable le patrimoine génétique des organismes. Donc ça, c'est la raison un peu philosophique. Puis la raison scientifique, c'est que vous avez suivi des cours d'interaction plante-pathogène. Quand on introduit un gène de résistance, ça a une durée limitée. Parce que le pathogène, il reste pas là. Donc, le pathogène qui cause les maladies, il reste pas là sans rien faire. Donc, je me rappelle quand j'étais à l'Agroscope, il y avait des études sur la pomme de terre. Ils faisaient ce qu'on appelle du pyramidage. Donc, ils prennent un gène de résistance, puis après un autre, puis encore un autre, pour que ça dure plus longtemps. Mmh. Et même avec ça, ça durait quelques années. Donc, en fait, on a durable. En fait, c'est pas durable. Nos bactéries non plus, toutes seules, c'est pas durable. En fait, ce qu'il faut faire, c'est agir sur plusieurs facteurs. Après, que ce soit des manipulations génétiques ou d'autres moyens, ça reste... C'est une question, en fait, subjective qu'on peut se poser. Moi, j'ai une opinion très arrêtée là-dessus. Puis, encore une fois, vous demandez à mes collègues de parler, ils vont tous vous dire que c'est des OGM qui vont nous sauver. Ces gens sont bien stupides de s'en méfier.
Voilà. Ouais, c'est très rationnel.
Les gens sont très... Il y a peu de gens qui sont vraiment neutres sur ce sujet. Je pense qu'on a... intérêt toujours à essayer d'avoir une attitude modeste par rapport à la complexité de la nature, par rapport aux plantes qui ont évolué depuis des milliards d'années. Et puis, nous, on arrive là et puis on change les choses qu'on maîtrise pas forcément toujours. C'est ça qui me dérange un peu. Après, c'est sûr que si vous faites des essais à quelques années, vous allez voir un effet fort. Vous allez pouvoir vous passer des pesticides, en tout cas pendant un certain temps. Et ça, ce serait très positif, c'est sûr. Après, je me rappelle, j'en avais eu un débat quand il y a eu des votations il y a quelques années sur la réduction des pesticides. Je ne sais pas si vous connaissez Urs Kfeller, qui est un producteur bio du canton de Fribourg assez connu. Et puis les gens disaient toujours, oui, mais en bio, vous mettez du cuivre. C'est vrai que les agriculteurs bio, ils peuvent mettre des métaux qui sont assez toxiques. Puis lui, il a dit qu'il ne mettait quasi pas de cuivre. Il n'avait quasi jamais besoin de cuivre parce qu'il a un système, un sol qu'il soigne depuis des années. D'un équilibre. Alors, il n'y a pas besoin d'OGM, puis il n'y a pas besoin de cuivre. On a un système qui est équilibré. Moi, c'est ça que je viserais.
C'est pas seulement, en fait, de l'agriculture biologique. Non. Je pense qu'on ne peut pas juste s'arrêter à l'agriculture biologique. Il faut voir les autres types. Il faut combiner tous les types, comme on en avait parlé avant, de l'agriculture diversifiée, protection des sols. En fait, c'est juste ne pas mettre de pesticides ou de métaux, ça ne suffit pas, en fait.
Non, et puis on dit que dans un système, on dit souvent, voilà, on est dans un système maintenant qui est dégradé, on n'a pas parlé des variétés, on a parlé des OGM, mais un autre problème, c'est que les variétés qu'on a sélectionnées, au fil des années, on les a sélectionnées pour qu'elles produisent avec les pesticides. Il y a un patrimoine génétique dans les espèces qu'on n'a pas sélectionnées qui est aussi capable de résister aux maladies. Mais en fait, on les a un peu perdus. Mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que on a la meilleure plante possible. Il y a des travaux à l'Agroscope qui font des cépages résistants pour la vigne, par exemple. C'est super. On peut réduire beaucoup les pesticides, mais au bout d'un moment, quand il y a une grande pression maladie, le pathogène, il arrive quand même. Que ce soit OGM ou pas OGM, c'est la même chose. La plante elle-même, elle a un grand potentiel de défense, mais il faut l'aider par d'autres choses. Donc, lui, dans son domaine, il faut aussi voir ça. Il y a des années d'investissement. On peut pas arrêter les pesticides, remplacer par rien, puis après espérer que ça marche. On doit, en fait, rétablir un équilibre avec toute la biodiversité, les organismes antagonistes, les ennemis naturels qui vont pouvoir agir. Donc, il y a un gros travail à faire de retour à un certain équilibre.
Mais je pense, c'est ça la solution. C'est, en tout cas, c'est ma solution. Il y a bien d'autres gens pour d'autres solutions, mais moi, c'est celle-là que je favorise.
Du coup, pour finir, une petite question, on en a déjà parlé, mais D'après vous, quelles seraient les actions individuelles que chacun peut commencer à faire maintenant pour améliorer les systèmes agriculturels ou...
Vous pouvez réduire votre consommation de viande, on n'en a pas encore parlé. Si vous en consommez encore, ben ça c'est quelque chose qui a un très grand impact. Et puis en plus, c'est bon pour la santé de manger un peu moins de viande que tous les jours. Ça, on mange encore de la viande tous les jours, ça c'est pas très durable, on va dire. Vous pouvez aller acheter vos produits de façon locale, chez... que ce soit même dans un magasin, dans un grand magasin ou dans un petit magasin de la ferme, c'est un peu égal, mais d'acheter des produits qui sont faits localement, ça vous pouvez faire facilement. Vous pouvez faire des choses vous-même. Ça, c'est un peu... C'est peut-être plus éloigné de l'agriculture, mais si vous faites si vous cuisinez vous-même avec les produits bruts, vous avez en fait... Vous soutenez une agriculture de proximité et puis d'économie, parce que vous n'allez pas encourager toutes les transformations qui sont dans l'alimentation, qui sont aussi liées à des déchets.
Et puis je pense qu'on se rend compte aussi, si on cuisine nous-mêmes, si on a les ingrédients nous-mêmes sous la main, je pense qu'on se rend plus compte de, je sais pas, dans les saisons, si c'est nous-mêmes qui allons chercher les légumes pour faire notre soupe au lieu de l'acheter préfaite, on sait qu'on voit qu'est-ce qu'il y a dans les rayons, quoi.
Oui. Ouais. Et puis si vous faites votre soupe vous-même, vous allez prendre des pommes de terre, peut-être au magasin de la ferme. Moi, ça m'arrive souvent. C'est des pommes de terre que vous trouveriez pas dans le commerce parce qu'elles ont pas le calibre parfait. Des fois, elles ont une petite maladie qui fait que vous devez peler un petit peu plus, donc vous perdez quelques microgrammes de matière. Mais vous avez sauvé une patate du destin d'être simplement utilisée pour les animaux. Alors que si vous achetez des choses qui sont déjà toutes préparées, ça, vous le voyez pas, mais en amont, vous avez en fait favorisé le fait que la plupart des pommes de terre qui n'étaient pas au calibre ont été dévalorisées. Vous voyez, c'est tout le système en fait. Donc c'est pour ça, c'est pas seulement pour la santé, parce qu'il y a moins d'additifs dans la nourriture, c'est aussi plus durable de revenir à quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, normal.
Parce que... Oui, mm-hmm. Tout à fait.
Ce sera du normal, suivant comment on veut la définir. Donc, on peut faire beaucoup de choses, finalement.
C'est ça. On peut déjà commencer, quoi. Pas besoin d'être... Voilà, c'est ça.
Pas besoin d'être parfait, ouais.
Ah, ça, non. Non plus. De toute façon, on ne l'est pas, mais on ne va pas l'être... On va pas l'être de sitôt, mais on peut commencer dans la bonne direction.
Mm-hmm. Alors, je pense qu'on a déjà fait un bon tour de tous ceux dont on avait envie de parler, puis on a pu avoir... Voilà, des opinions très intéressantes. J'avais beaucoup de questions qui me sont venues au fur et à mesure de la discussion. Malheureusement, voilà, on peut pas étirer ça sur des heures. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette discussion avec nous, de nous donner votre temps pour nous donner votre opinion, vos conseils aussi. Voilà.
C'était volontiers.
Ouais, merci beaucoup.
Merci à vous de votre intérêt. Bonne suite.
À vous aussi. Merci. Maintenant que la professeure Weisskopf est partie, on peut un petit peu discuter de ce qu'on en a pensé. Nina, quels sont les points les plus marquants que la professeure a invoqués?
J'ai trouvé super intéressant cette discussion avec Dr. Weisskopf. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était que d'après elle, les actions individuelles, c'est très important, voire plus important que les actions depuis le haut. Donc que chacun a son petit impact à faire et que ça motive d'autres personnes aussi à faire leurs propres choses et ça fait un peu un effet boule de neige pour faire avancer les choses dans une bonne direction.
Je trouve ça encourageant qu'elles se disent que même si on n'est pas parfait, qu'on n'est pas obligé de changer toutes ses habitudes, mais que déjà si on commence à faire un petit peu plus attention, juste avec des achats, juste les choix qu'on fait quand on va au supermarché qui est un petit peu différent, c'est déjà un début.
Mmh. Ouais. Et j'ai aussi trouvé intéressant qu'elle parlait des OGM. Bah, contrairement à beaucoup de scientifiques, elle était contre les OGM. Donc, c'était un peu rafraîchissant aussi d'avoir une opinion différente sur ça et de voir son avis.
Moi, je l'ai rejoint sur sa position plutôt philosophique, de dire que effectivement, il faut peut-être, au lieu de toujours vouloir adapter la nature à nous, de nous s'adapter à la nature et mieux la comprendre.
Mmh. Et elle avait aussi cette perspective de ça serait mieux de changer tout le système alimentaire. Bien sûr, c'est très difficile à faire, mais c'est un peu plein de composés différents, d'aspects différents de l'agriculture et du système alimentaire qui devraient changer le consommateur, les habitudes de consommation, par exemple les déchets alimentaires, les agriculteurs, l'utilisation de pesticides ou du bio, etc. Donc c'est aussi très intéressant de voir cet aspect très global de l'agriculture.
En tout cas, je trouve que tous les points soulevés étaient super intéressants. Je pense que ça donnera à nos auditeurs une bonne idée de où commencer à leur échelle.
Ouais.
Et peut-être l'envie aussi de continuer à se renseigner sur ce sujet. Mais je te remercie d'avoir fait cette discussion avec moi.
Ouais, merci à toi aussi. Et on vous revoit pour le prochain épisode.